dommage que je change d'avis, puisque aujourd'hui,
merci à toutes et à tous de votre présence ce soir pour cette discussion et ce débat. Effectivement, comme vous l'avez toutes deux souligné, le contexte dramatique récent aura des échos avec le thème finalement que nous avions choisi il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que je crois qu'il y a bien un rapport entre l'ambiance politique assez étrange dans laquelle nous nous trouvons et cette question de la désinformation et des rumeurs. Je prendrai juste un exemple lié justement aux attentats. Pour suivre les attentats, vous avez tous remarqué qu'il y a des chaînes d'information en continu maintenant qui délivrent... des informations, justement, qui occupent du temps d'antenne autour des événements, ce qui est un des problèmes. Mais il existe une innovation journalistique, un format journalistique nouveau, ce qui n'est pas si courant dans l'histoire du journalisme, qui est, en l'occurrence, le fil d'actualité du Monde sur le site internet du Monde. C'est-à-dire, c'est un direct écrit, quelque chose de tout à fait nouveau, où les abonnés du Monde ou les lecteurs peuvent poser des questions et toute la rédaction est mobilisée, répond, transmet des informations qui sont vérifiées, explique ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et permet le suivi au fil des événements de ce qui se passe. Et j'étais très frappé le week-end dernier. Le Monde, finalement, à un moment, a résumé la situation de la journée en trois points. 1, ce qu'on sait. 2, ce qu'on ne sait pas. 3, ce qui est faux. Et ce qui était très intéressant, c'est cette troisième partie, ce qui est faux, qui s'imposait parce que quand il y a maintenant une actualité très intense comme celle que nous avons vécue le week-end dernier, il y a énormément de fausses informations qui circulent. Et c'est ça le sujet dont je voudrais parler, c'est pourquoi y a-t-il autant de fausses informations? Est-ce que c'est quelque chose de significatif ou pas? Est-ce qu'il faut s'intéresser à ce sujet? Est-ce que c'est important? Et c'est lié au fait que cet exemple-là est corroboré aussi par le fait qu'il y a une nouvelle catégorie de rubrique qui est apparue dans la presse il y a quelques années, qui s'appelle, par exemple, dans Libération, Désintox, mais qui existe dans tous les journaux, qui consiste justement à démonter des informations qui sont fausses, à contredire des informations. Et cette chose est très importante, le fait qu'il existe ces nouveaux formats dans les médias classiques, parce que, en fait, en dehors des médias classiques, qui sont, en fait, moi, mon univers de référence, peut-être pour vous aussi, mais qui sont de moins en moins les univers de référence partagés par tout le monde. En réalité, il existe maintenant une autre scène de discussion de l'actualité que la scène que, par exemple, nous représentons ce soir ou que représentent la presse écrite, les revues, les émissions de radio, des choses comme ça. Il existe une autre scène qui est liée, évidemment, au nouveau réseau numérique dans lequel d'autres informations circulent. Par exemple, j'ai vérifié hier sur YouTube, si vous allez vous connecter sur YouTube, dès la première page, dès la page d'accueil, parmi les vidéos les plus vues, les plus recommandées, vous avez toujours une vidéo qui consiste à... qui parle des complots, du complotisme, du 11 septembre, de la vérité des théories de la conspiration, etc. Et on sait très bien que pour les jeunes générations en particulier, c'est une source d'information extrêmement importante. Donc c'est un phénomène qui s'est développé, évidemment, depuis le 11 septembre 2001. Là, il y a eu un renouveau de la théorie du complot, qui était quelque chose qui intéressait quelques historiens, qui était un peu une sorte de musée des curiosités pour quelques érudits, mais qui n'avait pas une empreinte publique aussi forte. Mais alors, depuis le 11 septembre 2001, il y a eu véritablement un très fort développement de ces nouvelles théories du complot ou des rumeurs, donc agrégées notamment autour d'un mouvement qui s'appelle Reopen 9-11, réouvrir le dossier du 11 septembre, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui explique pourquoi l'année dernière, enfin il y a presque un an, au moment des attaques du 7 janvier, dès le 7 janvier au soir, c'est donc Gérald Bronner qui dit ça dans le dossier qu'on a publié, il y avait déjà, on pouvait répertorier déjà, donc dès le 7 janvier au soir, plus de 100 arguments en faveur d'une théorie du complot. Hein, en disant donc ce sont de faux agents déguisés qui ont attaqué Charlie Hebdo, ou que les gens de Charlie Hebdo n'étaient pas morts, que tout ça a été une mise en scène, ce type d'idées. Et en fait, je pense que ce sujet est vraiment important parce qu'il est lié justement à l'ambiance politique dans laquelle on est. Si aujourd'hui, on avait fait une soirée qui consacrée à la situation politique de la France, on aurait déroulé toute une réflexion sur l'histoire politique de la France, le système institutionnel, les partis politiques, les sondages, la situation sociale, les grands cadres d'analyse que nous sommes habitués à dérouler quand nous essayons d'expliquer la situation politique, de commenter l'actualité politique. Et on n'aurait peut-être pas parlé justement de cette scène complotiste, alors qu'il me semble qu'elle n'explique pas, hein, parce qu'il ne faut pas accorder peut-être trop d'importance à ce sujet, mais elle fait partie, elle est quand même dans le paysage, et elle explique elle s'accorde avec deux phénomènes qui sont très importants. D'une part, la radicalisation extrémiste, je veux dire la radicalisation même terroriste. C'est un sujet très compliqué, comment des jeunes se radicalisent via Internet, etc. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les portraits qu'on a lus dans la presse, qu'on lit sur les jeunes qui partent en Syrie, etc., c'est évident que c'est des jeunes qui ont absorbé énormément, et avec beaucoup, certainement au premier degré, ces théories complotistes, qui fait qu'ils sont convaincus qu'il y a justement une autre scène sur lequel la vérité se déroule et qu'en allant rejoindre un terrain militaire, celui de la Syrie, ils vont enfin participer à une lutte mondiale dont les vrais enjeux sont cachés dans la scène d'actualité dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, c'est un des enjeux de la déradicalisation, certainement, de voir comment lutter contre l'emprise que ces théories du complot ont sur ces jeunes, c'est-à-dire dans le conditionnement psychologique qui explique le parcours de ces jeunes, les théories du complot jouent certainement une place très importante. Mais il y a aussi un autre aspect de l'ambiance politique dans laquelle on est, comme vous le savez, c'est aussi la radicalisation à droite. Et il se trouve que la théorie du complot a toujours été une théorie très cultivé par l'extrême droite. Hein, depuis la tradition contre-révolutionnaire, j'en redirai un mot tout à l'heure, il y a toujours eu dans le discours d'extrême droite cette manière de mettre en avant une théorie du complot ou plusieurs, et donc de soupçonner un jeu de la vérité, le fait que les médias cachent la vérité, qu'ils ne disent pas la vérité, etc. Et donc, il me semble que pour ces raisons, enfin, ce sujet est assez central parce qu'il éclaire d'une certaine manière, sans prétendre tout expliquer, l'ambiance politique dans laquelle on est. Alors, je voudrais maintenant rentrer dans les difficultés posées par ce thème, la désinformation, les rumeurs, les théories du complot, le conspirationnisme, comment s'y retrouver, comment démêler le vrai du faux. Et la première difficulté, c'est qu'il y a d'abord une apparence de, il y a une apparence de. Ah ben voilà. Il y a dans les personnes qui se revendiquent de la contestation du discours officiel, entre guillemets, il y a la volonté de faire jouer l'esprit critique. Bien sûr, il y a l'usage de l'arme critique. Nous sommes des héritiers des Lumières. Bien sûr, nous valorisons le libre examen, la possibilité de tout critiquer, le fait de demander des preuves quand quelqu'un avance des choses. D'ailleurs, je me suis rendu compte en venant que, dans le fond, le titre de ma conférence était à double entente, hein, puisque comment résister à la désinformation, vous êtes peut-être venu en pensant que j'allais dénoncer la désinformation dont nous sommes tous victimes, parce qu'à certains égards, il y a aussi de la désinformation qui existe, il y a des vérités qui sont cachées, et il y a un travail critique à faire en permanence. Donc comment s'y retrouver dans ces choses-là? Comment faire la distinction? On sait très bien que pour envahir l'Irak, les Américains ont délibérément menti au Conseil de sécurité des Nations Unies de façon ouverte, absolument éhontée. Et on sait très bien que, par exemple, les révélations des Wikileaks de Julian Assange ont révélé des programmes secrets d'écoute. Alors, quelque chose qui ont dû affoler les esprits paranoïaques, parce que c'était les pires cauchemars des paranoïaques. Hein. C'est-à-dire, effectivement, c'est avéré, vérifié, que des données massives sont utilisées à des fins de surveillance. Je reviendrai sur ce problème qu'on appelle des big data, donc des données massives qui peuvent être utilisées pour retracer des parcours, comprendre recouper des itinéraires et toutes sortes de choses. Donc il y a bien des révélations qui sont utiles et il y a bien des gens qui ont des programmes cachés ou qui ne veulent pas jouer la transparence, des services secrets qui mènent des actions couvertes, etc. Et donc il est bien difficile de se retrouver puisque, disons, d'une certaine manière, des partisans des théories du complot peuvent se couvrir de cette revendication de l'esprit critique, de l'esprit de libre examen qui fait partie de notre tradition éclairée, tradition des Lumières. Alors, une des manières de s'y retrouver, je le dis tout de suite, c'est d'essayer de voir s'il y a un problème logique, est-ce qu'il y a une erreur de raisonnement dans un certain nombre de discours. Et là, c'est pour ça que j'ai sollicité pour ce dossier Gérald Bronner, qui a travaillé justement sur les problèmes de crédulité et qui est très fan de ces problèmes logiques, d'identification logique des discours ou de la consistance logique des discours, disons. Et il rappelle bien, et donc moi ça m'a beaucoup éclairé parce qu'il arrive à faire comprendre en fait le mode de raisonnement auquel on a affaire dans la plupart des cas. Enfin, dans beaucoup de cas, d'abord il n'y a pas de raisonnement du tout hein, avec les tenants de certaines théories conspirationnistes. Il n'y a d'ailleurs pas de théorie à proprement parler, c'est beaucoup trop généreux de parler de théorie. En général, il y a un modèle de pensée tout fait qui est plaqué sur l'ensemble des situations, à savoir qu'il y a un complot judéo-maçonnique qui explique à peu près tous les événements de mauvais qui peuvent nous arriver. Et il y a des gens qui sont des tenants, mais c'est simplement qui ne font que réaffirmer la même chose. Aux États-Unis, par exemple, on a très bien vu comment il y a toute cette conception du complot franc-maçon, qui aux États-Unis s'appelle le complot Illuminati, qui imprègne la culture populaire américaine de façon très très forte et qui arrive à... Parce que, en fait, un certain nombre de personnes en situation de domination sociale arrivent à se donner un ordre de représentation grâce à ce type de discours. Et il faut dire aussi que un certain nombre d'œuvres culturelles jouent, bien sûr, avec ces idées. Hein. Des romans à succès, les romans policiers, les intrigues, les séries télévisées, évidemment, c'est un des ressorts romanesques, un des ressorts dramaturgiques fondamentaux de ces genres qu'on a considérés comme mineurs pendant très longtemps. Conspiration, dévoilement de la conspiration, enquête avec les personnages qui vont là-dedans. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui ont joué avec ce code, avec, disons, l'intérêt du public ou le goût du public pour ce genre d'idées, en jouant parfois avec, disons, les codes romanesques pour créer un doute dans l'esprit du lecteur, savoir si... on est dans la fiction ou dans la réalité. Bon, mais là, on est dans le domaine du travail littéraire ou du travail cinématographique où on joue avec ça. Donc, je reviens à Gérald Brunner. À part dans les cas où donc il n'y a pas de raisonnement du tout, il y a quand même, il a mis en évidence un procédé rhétorique. Plutôt qu'un raisonnement, un procédé rhétorique qui est récurrent dans ces dispositifs, qui procède en fait par accumulation de doutes. Il ne s'agit pas, en fait, quand je dis justement, si on prend l'exemple du 7 janvier, le soir même, sans argument contre la thèse, entre guillemets, officielle, ça veut dire en fait... pas des contre-récits, mais simplement des détails qui sont utilisés en disant « mais là, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose d'étrange ». Et quand il se passe des événements, comme il y a toujours des choses étranges, donc par exemple, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé le passeport d'un des frères Kouachi dans la voiture ? Ça, c'est quelque chose d'étrange. De même, surtout si on se souvient que le 11 septembre 2001, on a retrouvé au pied des tours, enfin des ruines qui restaient du World Trade Center, un passeport des terroristes qui étaient montés dans l'avion, donc passeport qui avait échappé à l'explosion, à la destruction des tours, et qu'on a retrouvé par terre. Donc, chose étrange. Il y a toujours des choses étranges comme ça, et dans le goût de conspirationniste, il y a toujours une volonté d'explication exhaustive. C'est-à-dire, il ne peut pas exister de hasard, de choses, il faut que tout ait un ordre d'explication. Donc le procédé, c'est d'aller par accumulation de doutes en disant « ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça aussi c'est étrange ». Et tout ça ne fait pas système, bien sûr, mais finit par justifier, entre guillemets, que ça commence à faire beaucoup. Expression récurrente qu'on trouve sur les réseaux sociaux, etc. Moi je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais quand même, je remarque qu'il y a beaucoup de choses étranges et à la longue, je finis par me poser des questions. C'est ça l'idée. Et il se trouve que ce procédé par accumulation de doutes correspond très très bien au travail collaboratif qu'on peut faire en ligne. Parce qu'en ligne, vous pouvez avoir des milliers de personnes qui contribuent à un site et qui mettent en avant telle et telle anomalie ou telle ou telle question. Et donc l'objectif, c'est de constituer un millefeuille argumentatif, c'est-à-dire vraiment un millefeuille au sens empilé, c'est-à-dire c'est pas... des arguments qui s'enchaînent de manière logique avec des articulations, mais qui sont juxtaposés les unes à côté des autres, chaque argument ne prouvant rien en lui-même et éventuellement ne résistant pas à un examen approfondi, mais l'accumulation des choses finit par justifier une forme de scepticisme. Donc tout ça ne débouche pas sur un contre-récit, sur une contre-explication, mais d'ailleurs se contente d'une sorte de position minimale consistant à dire, à renvoyer la question de la preuve, où est votre preuve et comment démontrez-vous ceci, cela, comment expliquez-vous qu'on ait trouvé le passeport des frères Kouachi dans leur voiture, et à demander simplement que la discussion soit possible. Hein, par exemple, « Reopen 9-11 », ça consiste à dire on demande la réouverture du dossier. Donc ça a l'air d'être une demande tout à fait minimaliste, rationnelle, très très simple, etc. Mais comme le fait remarquer Gérald Brunner, ce système d'argumentation est extrêmement difficile à réfuter parce qu'il faut démonter point par point l'ensemble des doutes qui ont été soulevés. Donc quand on arrive tout de suite à 100 au bout d'une journée, vous imaginez que c'est tout à fait... Enfin, on arrive à des chiffres importants. Et certains arguments concernent la balistique, d'autres la résistance des matériaux, les troisièmes les tests ADN, et donc il faudrait des compétences dans chacun des domaines, et donc à nouveau faire un travail collaboratif pour répondre point par point sur les choses, que personne n'a le temps, une personne seule n'a pas le temps de faire ça. Et malgré tout, ou encore des arguments géopolitiques, politiques, historiques, économiques, enfin... Et donc, c'est un travail extrêmement fastidieux et difficile. Mais, donc, comme je le disais dans l'interview publiée dans le journal, en tout cas, ce mode d'argumentation par accumulation de doutes échoue au test que le philosophe des sciences Karl Popper avait établi pour caractériser un discours scientifique, qui est le test de la réfutabilité. Je ne sais pas pourquoi... En français, on a traduit, on a pris l'habitude de dire la falsification popérienne, c'est-à-dire la possibilité de prouver qu'une démonstration est fausse, ce qui, en France, le bon terme, c'est la réfutation. Ce qui fait un argument scientifique, c'est le fait qu'on peut le réfuter, parce qu'un argument scientifique présente les données, la méthode... le déroulé du raisonnement, et donc on peut le suivre et par conséquent le réfuter. Comme il n'y a pas dans l'accumulation de doutes, il n'y a pas en fait de raisonnement, il n'y a pas de réfutation non plus possible, puisqu'on procède simplement par accumulation, et donc on ne parvient pas vraiment à mettre un terme à la discussion ouverte par les complotistes. Mais moi, je me suis intéressé au sujet, en fait, pas seulement pour rentrer dans ce détail qui est un peu vertigineux, en fait, de chacun des arguments, puisque tout donne lieu, en fait, à discussion et à théorie du complot. Ce qui m'a intéressé, c'est d'arriver à comprendre derrière ça quelle est aujourd'hui la situation de notre débat public et, je dirais plus précisément, le lien qui existe dans notre débat public entre la construction du savoir et les usages de ces savoirs. En fait, on voit bien les difficultés où nous sommes placés avec toutes ces discussions. Il y a notamment ce qui est mis en échec en particulier dans tous ces débats, c'est un certain idéal de la transparence qui est implicite dans la manière dont fonctionne notre débat public. C'est-à-dire que la démocratie suppose un débat public transparent et parfois nous gardons une idée finalement trop naïve de cette transparence du débat public, hein, où on pense simplement que tout le monde, enfin, dans un idéal qui est celui exprimé par Emmanuel Kant, par exemple, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», chacun va apporter ses arguments rationnels, on va les confronter, ou dans la version même, disons, la plus contemporaine de cet idéal-là, c'est-à-dire chez le philosophe allemand Jürgen Habermas, il y a l'idée que en fait, des acteurs rationnels de bonne volonté vont affronter leurs arguments et donc ils vont affiner les arguments et progressivement, c'est comme ça qu'on va arriver à la décision la plus rationnelle. On sent bien que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, même si ça reste peut-être notre idéal normatif. Il faudrait que ça fonctionne comme ça. Mais on sait bien que tout le monde n'apporte pas simplement de bonne foi des arguments rationnels dans un débat politique. Il y a des arguments instrumentaux, il y a des arguments qui cachent des véritables intérêts, il y a des acteurs qui ont des raisons de ne pas participer à la discussion, etc. Donc on est confronté ici à l'envers de notre imaginaire démocratique. Cet idéal de la discussion rationnelle que présente Jürgen Habermas, il est souvent pris à défaut. Et de même qu'il y a le rêve, il y a aussi le cauchemar. Et nous ne vivons pas que dans nos idéaux. Il y a des moments où on est renvoyé vers le cauchemar de notre situation. Mais le problème nous oblige aussi à toucher au mode d'explication des phénomènes collectifs auxquels nous recourons pour nous expliquer à nous-mêmes notre situation. Je veux dire par là, il y a dans tout ça un débat interne aux sciences sociales. Le sociologue Luc Boltanski a écrit tout un livre justement sur cette question du complot et des enquêtes. Parce que les sociologues, ils montrent très bien qu'il y a là une question de fond pour les sociologues qui font aussi des enquêtes, qui essayent de contester la lecture dominante de nos habitudes ou de l'ordre social en avançant des arguments qui viennent contester nos raisonnements les plus habituels, qui viennent prendre à contre-pied nos raisonnements. Comment un sociologue peut-il se justifier par rapport aussi à ce travail critique ? Il croit que des entités collectives agissent dans la société, par exemple les classes sociales, qui ne sont des réalités qui ne sont pas tangibles, qui sont des constructions intellectuelles. Donc pourquoi celles-là et pas d'autres ? Par exemple, pour prendre un concept sociologique très familier, la dénomination symbolique, par exemple, que Pierre Bourdieu a mise en évidence dans ses livres. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que la dénomination symbolique est une force invisible qui explique des attitudes, des comportements sociaux ? Finalement, tout ça sont des abstractions, des concepts, des explications très larges. Luc Boltanski, en reprenant déjà des questions posées par Karl Popper avant, se confronte à cette question en disant effectivement, le sociologue croit que des forces collectives sont à l'œuvre dans la société, il ne peut pas complètement justifier l'existence de ces forces. Néanmoins, ce qu'il peut faire, c'est montrer le laboratoire, montrer comment il a fabriqué son concept, montrer comment il a fabriqué son enquête. Et de ce point de vue-là, il répond à l'injonction popérienne de la réfutabilité, donc de montrer comment son travail était fait, pourquoi il a construit son concept, son enquête de telle et telle manière. Mais en fait, ces discussions, alors qu'ils finissent un peu complètement par une aporie, enfin c'est très intéressant, Luc Boltanski met aussi les choses en relation avec le roman policier, il montre que la sociologie en France et en Angleterre s'est développée en même temps que le roman policier, donc cette idée de l'enquête sociale, de passer par les bas-fonds de la société, par l'envers du décor, c'est une ambition ou une rhétorique commune entre le roman policier et l'enquête sociologique. Bon, c'est des sujets très intéressants, mais en réalité, dans les discours médiatiques auxquels nous sommes confrontés, nous sommes très très loin de ces discussions théoriques. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'y attarder, parce que l'autre chose que je trouve très frappante en travaillant sur ces sujets, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très trash, de très sale, de très ironique, de plein de dérision dans cette culture du complot. En fait, il y a plutôt une fusion. La nouveauté actuelle, ce que nous vivons, c'est la fusion de ces théories conspirationnistes avec la culture de la dérision des médias. En fait, parce que je ne serais pas là pour vous parler de tout ça, pour le dire simplement, s'il n'y avait pas en France, par exemple, un Dieudonné pour relancer, pour attirer l'attention sur ce genre d'idées. Hein, en réalité, si on parle du sujet, c'est moins à cause de Karl Popper qu'à cause de Dieudonné. Et donc, on voit bien que là, on est dans un autre niveau de la culture populaire. Et ce qui s'est passé dans la diffusion récente en France des théories du complot ou d'un certain nombre de rumeurs, c'est passé par un certain nombre de médias, de personnages comme Dieudonné, qui ont été invités dans des émissions de télévision, qui sont qu'on connaît très bien. C'est On n'est pas couché, Ce soir ou jamais, ces émissions qui font de l'infotainment, ce qu'on appelle en anglais infotainment, c'est-à-dire ce mélange de information et entertainment, c'est-à-dire des variétés, enfin, des plateaux de débat, et donc qui ont donné une audience, une diffusion tout à fait nouvelle et inattendue à des théories qui, jusqu'à présent, étaient cantonnées à des cercles politiques extrêmement minoritaires. Hein, moi, j'ai travaillé sur la Révolution française, sur la naissance du mouvement contre-révolutionnaire pendant la Révolution française. Il y a eu tout de suite des théories du complot, le complot par l'étranger, etc. Bon, il faut dire que les observateurs de l'époque étaient très perturbés par les événements, qu'il n'y avait pas de modèle historique comparable, il n'y avait pas véritablement de mode d'explication très facile à mobiliser pour faire face aux événements. Et tout ça a perduré pendant très très longtemps dans ces traditions politiques-là. Mais les choses ont changé avec la diffusion de la culture télévisuelle, la culture des images en particulier. C'est pour ça que dans le premier entretien que j'ai fait dans ce numéro, c'est avec Aurélie Ledoux, qui est une historienne spécialiste des images, parce que c'est évident que le 11 septembre, par exemple, le rôle des images est extrêmement important dans les conceptions, les contre-récits du 11 septembre. Elle avait montré dans un précédent article qu'on avait publié dans Esprit que l'idée, l'argument qui est récurrent dans les théories conspirationnistes, c'est que ce n'est pas qu'il y a des images qui prouvent quoi que ce soit, c'est qu'il y a, sur certains points, bon, on se pose des questions, il n'y a pas d'images. Et que cette absence d'image est justement la preuve qu'on cherche à nous cacher quelque chose. Sinon, comme aujourd'hui, on a des images sur tout, ça c'est le norme, disons le régime naturel des images aujourd'hui, c'est qu'on ait des images pour tout. Et par conséquent, s'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas d'image, c'est que quelqu'un essaye de nous les cacher. Donc c'est une inversion complète de notre culture des images. La croyance naïve qu'une image dit en elle-même quelque chose, indépendamment de tout un travail d'interprétation, naturellement, qui est indispensable à faire. Donc c'est très intéressant de ramener aussi cette question cette culture populaire dans laquelle l'image a pris non seulement une place omniprésente, mais un sens, en quelque sorte, ontologique de l'image qui n'est plus le même. Alors, bien sûr, dans les changements structurels des conditions du débat public, il y a la diffusion des nouveaux outils technologiques. C'est évident que, ici, il y a un impact majeur de cette transformation, Marie-Paul l'a dit tout à l'heure, avec la diffusion du savoir par Internet, on avait ce rêve un peu idéal d'une connaissance très facile à diffuser, gratuite, accessible, mais et qui, à bien des égards, contribue évidemment à notre plus grande information, la facilité de se documentation, mais ne nous a pas fait complètement rentrer dans un âge d'or du savoir. Il y a aussi d'autres phénomènes qui viennent contrecarrer cette évolution-là. Alors, je vais reprendre un certain nombre d'éléments. Le premier qui est le premier qui est évident, c'est l'affaiblissement des médiations habituelles, ce que les spécialistes d'Internet appellent la désintermédiation, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, nous avons l'impression, du moins, que nous pouvons avoir accès à des informations sans passer par les filtres habituels de la présentation de l'information par des journalistes, etc., ou même par des revues, des journaux, des livres, des gens dont le travail est de rendre compréhensibles les événements. Et cette désintermédiation, maintenant, elle produit vraiment des effets massifs. Pas simplement, il y a d'une part des effets économiques, le fait que la presse Le modèle économique classique de la presse s'est effondré, a disparu, donc toute la presse est en difficulté économique. Mais aussi le fait que la désintermédiation, elle est aussi dans les têtes, c'est-à-dire la conviction naïve qu'on est directement dans l'événement ou en contact avec l'événement et qu'on n'a plus besoin d'un certain nombre de médiations. Le deuxième phénomène extrêmement important, c'est ce que les spécialistes des sciences cognitives appellent le biais de confirmation. Quand on a accès à énormément d'informations, évidemment, il y a ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le sentiment d'être submergé par l'information, ce qu'on appelle la fatigue cognitive, hein, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive plus à faire face, il y a trop d'informations, la surcharge cognitive, et donc il y a un moment surtout, enfin, où on n'arrive plus à suivre, surtout dans un moment où l'attention est extrêmement sollicitée. Nous vivons aussi dans un système médiatique maintenant où se produit ce qu'on appelle des pics attentionnels, c'est-à-dire qu'il y a des moments de haut et de bas, et des moments extrêmement intenses où nous sommes bombardés par l'information. Bien au-delà de ce que nous sommes capables de digérer. Donc ça, c'est un premier effet, bien sûr, surcharge cognitive et fatigue. Mais il y a aussi, donc, quand on a accès à beaucoup d'informations, donc ce que les spécialistes des sciences cognitives appellent un biais de confirmation. C'est-à-dire que nous sélectionnons parmi les informations ce qui correspond déjà à ce que nous avons préformaté dans notre esprit. Il y a des expériences empiriques de psychologie sociale qui montrent très bien que quand on confronte, on fait des tests avec des groupes, etc. Et nous avons tous tendance à mettre de côté les informations qui ne cadrent pas avec ce que nous pensons. Hein, d'ailleurs, moi-même, j'achète plutôt les journaux des gens qui pensent politiquement comme moi que les journaux du bord d'en face. Mais ça va un peu même au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à mettre des blancs sur ce que je n'arrive pas à intégrer dans mes propres représentations. Et ce biais de confirmation, il est particulièrement gênant dans un système numérique qui crée des groupes d'appartenance, parce que les groupes d'appartenance s'identifient justement par affinité, par conviction, etc. Et donc finissent par se renforcer dans leurs convictions, puisqu'ils arrivent à éviter, éliminer ce qui ne rentre pas dans leur vision du monde. Alors ça, c'est une discussion entre spécialistes de la presse et spécialistes des réseaux Internet. Hein, c'est-à-dire que les défenseurs de la presse traditionnelle disent, quand vous achetiez le journal, eh bien, en tournant les pages, vous étiez confronté à une diversité d'informations. C'était construit avec ce qu'on appelle un conducteur dans le métier, politique française, politique internationale, culture, loisirs, sport, etc. Et si vous êtes un fan de politique intérieure, mais que vous ne vous intéressez pas tellement à la politique internationale, malgré tout, vous étiez confronté à la politique internationale en tournant les pages, parce que c'était construit comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une offre éditoriale qui était construite et qui proposait quelque chose de global. Aujourd'hui, si vous avez votre information en ligne, vous pouvez paramétrer en fait l'information qui vous arrive de manière à éliminer ce qui ne vous intéresse pas. Donc cela peut vous renforcer. Et pour des groupes d'identification, évidemment, ça peut créer aussi des effets de renforcement. Il y a un troisième phénomène qui est à l'œuvre dans les médias numériques. C'est l'invitation à l'expression. Tout le monde est invité à s'exprimer, à commenter, à donner son commentaire. Hein, c'est ce que Dominique Cardon, dans un livre récent que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes », appelle l'individualisme expressif. C'est-à-dire, finalement, tout le monde a envie de donner son avis sur les événements. Et justement, les outils numériques permettent de faire ça. Et donc de commenter le commentaire, etc. Et là aussi, on voit qu'en général, d'ailleurs, les gens, dans les files de discussion, perdent complètement de vue ce que disait l'article de journal et finissent par commenter les commentaires et même par s'insulter très rapidement, finalement. Ne retiennent de l'article initial qu'un adjectif, un adverbe ou une expression. Bon. Le commentaire part dans tous les sens. Mais cette invitation à s'exprimer, à prendre la parole, produit, je crois, aussi profondément des effets politiques. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas, en un sens c'est heureux aussi, des décisions ou des choses dans lesquelles nous ne pouvons plus prendre la parole, hein, des choses qui sont imposées, d'où, à mon avis, un phénomène qui ne fera que s'amplifier de demande de participation, d'expression plus grande sur beaucoup, beaucoup de sujets. Le quatrième élément lié à la technologie, c'est la viralité, c'est-à-dire le fait que la diffusion maintenant des connaissances ou des idées par voie virale, c'est-à-dire par relais des gens les uns avec les autres, est extrêmement fort et même en fait exponentiel, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de notoriété, la diffusion est de plus en plus forte. Enfin, je vais aborder ma dernière partie prend encore plus de recul par rapport à ces questions et donc s'interroge sur disons la manière dont tout ça s'articule entre ces problèmes d'information, ces problèmes de débat public et sur notre situation politique. C'est-à-dire le rapport entre pouvoir et savoir aujourd'hui. Nous savons très bien que Michel Foucault a très bien montré qu'il y a toujours une articulation entre pouvoir et savoir. Maîtriser le savoir, c'est une forme de pouvoir. Le pouvoir se légitime par le savoir. Et Michel Foucault même mettait ça en rapport avec un troisième terme, c'est sa trilogie qui est très intéressante, enfin le trio, c'est la culture de soi, la construction des savoirs et les formes du pouvoir. Il faut essayer de penser ces trois choses-là en même temps, alors bien loin de moi l'idée de pouvoir faire aussi bien que Michel Foucault, mais en tout cas, je trouve qu'il y a cet élément de la culture de soi que j'ai présenté qui est l'individualisme expressif. Je pense que c'est quelque chose qui est clair, c'est que on ne peut pas. C'est un mouvement très très fort dans notre société actuellement. Maintenant, le rapport entre pouvoir et savoir, je crois qu'il est en train de se transformer très profondément. Et en réalité, ma thèse, c'est que si les théories du complot sont si présentes aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a plus ou moins de choses cachées qu'avant. Mais c'est parce que la construction qui existait jusqu'à présent entre pouvoir et savoir est en train de se défaire et que dans le vide créé par cette disparition, en fait, prospèrent d'autres récits. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais présenter trois temps du rapport entre pouvoir et savoir. Je dirais d'abord le temps post-révolutionnaire, c'est-à-dire l'âge de l'opinion éclairée. Ensuite, le temps de l'État, qui est l'âge de la statistique. Et puis, le temps dans lequel nous rentrons, qui est l'âge numérique, qui me semble très différent. Donc, je reviens sur chacun des temps. Premièrement, le temps de l'opinion éclairée. Ça, c'est l'idée du XVIIIe siècle. L'optimisme des Lumières, c'est que l'opinion peut être peut aider à construire un débat rationnel. Ce qui était une rupture avec la conception de l'opinion qu'on avait au XVIIe siècle, puisque au contraire, enfin dans la tradition philosophique, l'opinion ça a toujours été la maîtresse de fausseté. L'opinion c'est ce qui trompe. Enfin déjà chez Platon. L'opinion, c'est le préjugé. C'est ce qui n'est pas examiné rationnellement. Donc, l'opinion, c'est ce qui nous induit en erreur. C'est les opinions. Donc, chacun a son opinion et donc est victime de ses préjugés, du manque de réflexion, etc. Bon, ça, c'est la tradition platonicienne. Au XVIIIe, on construit justement avec autre chose qui est l'opinion publique. C'est-à-dire l'idée que la confrontation des idées va nous permettre de progresser vers la vérité. Hein, donc, tradition dont Jürgen Habermas, dont je parlais tout à l'heure, reste un héritier. Hein, l'idée éclairée qui a un usage de la confrontation des idées qui nous conduit progressivement vers la vérité. Il y avait une expression au XVIIIe siècle pour désigner cette idée-là. C'est un historien britannique qui a écrit un très beau livre sur ce sujet-là, donc il s'appelle Keith Michael Baker. Il s'appelle le tribunal de l'opinion. Au moment de la Révolution française, on considère que l'opinion est un tribunal. C'est-à-dire, véritablement, comme il faut l'entendre littéralement, comme en droit, c'est-à-dire l'endroit qui va juger. L'opinion juge, elle est infaillible parce qu'elle est impartiale. Et elle est impartiale parce qu'elle n'est pas partisane. Elle est au-dessus de l'affrontement des champs politiques. Alors c'est très intéressant parce que le XVIIIe siècle est un siècle, comme vous le savez, de conflits politiques très très forts qui vont déboucher sur la Révolution française, mais avec l'idée qu'il n'y a pas simplement le conflit immanent de ces forces politiques, les parlements qui contestent la monarchie absolue. Il y a quelque chose au-dessus de ces deux camps qui est le tribunal de l'opinion. Le premier à avoir véritablement fait appel à cette opinion pour surmonter les blocages politiques de la France de Louis XVI, c'était le surintendant des finances Jacques Necker, qui a rendu public en fait les comptes, la comptabilité de l'État, en disant voilà quels sont les comptes de l'État aujourd'hui. Le Parlement vote le budget de la nation. À l'époque, c'était pas le cas, donc on ne connaissait pas les comptes. Et donc Jacques Necker est le premier à rendre les comptes publics et à dire voilà pourquoi je prends telle et telle décision. Mais au-delà de Necker, il y avait véritablement cette idée dans chacun des deux camps qui s'affrontaient qu'un jour on pourrait faire appel au tribunal de l'opinion et que celui-ci allait trancher les choses. Donc on avait un débat public normé, avec des normes, des normes rationnelles qui arrivaient, qui pouvait nous conduire à la vérité. Ensuite, quand au XIXe, l'État central s'est mis progressivement en place, on a construit, plus l'État s'est mis en place en France, plus il s'est appuyé sur un appareil statistique important. La construction des statistiques publiques est parallèle à la construction de l'État en France. Et en France, on a des très bonnes statistiques public. La première chose qui a été faite, Pierre Rosanvallon a montré ça dans son livre sur l'État en France, c'est d'abord de rendre possible une discussion parlementaire sur le budget de l'État. Et donc, pour avoir une discussion parlementaire sur le budget de l'État, eh bien, il fallait, administration par administration, pouvoir justifier les dépenses, les revenus, etc. Donc, mettre en place toute une comptabilité. Et donc, on a créé, au-delà, d'abord le budget, c'était la première étape, et puis ensuite, des statistiques. En France, la démographie, l'INSEE, le cadastre, toutes sortes de choses. Et on voit bien qu'il y a dans le projet statistique l'idée que la société peut être appréhendée de manière rationnelle. De manière rationnelle par un État qui organise une lecture, un quadrillage de la société par des outils statistiques qui passent par la mathématique et par des grandes catégories d'appréhension de la société. Et même le développement de la sociologie qui vient ensuite, est contemporain de cette idée qu'on peut lire la société, on a des outils, on peut construire des catégories de lecture de la société. Par exemple, pour l'INSEE, les catégories socio-professionnelles. Et donc, on peut ranger chaque personne, chaque foyer, dans les catégories en fonction du niveau de revenu, de la profession, etc. Or, ce que disent beaucoup de sociologues et d'économistes depuis maintenant assez longtemps, c'est que cette manière d'appréhender la société ne nous permet plus véritablement d'expliquer les phénomènes sociaux. On n'arrive pas à expliquer une part grandissante des phénomènes sociaux par les outils habituels. D'une part, les catégories sociales sont devenues des concepts extrêmement approximatifs. Il n'y a qu'à voir le débat qu'on a en permanence dans la politique sur classe populaire, classe moyenne, etc. On ne peut pas décrire la société aujourd'hui à travers des catégories aussi vagues. Surtout que personne ne se reconnaît ni dans les classes populaires ni dans les classes moyennes. C'est toujours son voisin qui appartient à l'une ou l'autre. Et d'ailleurs, ça, quand on demande à quelqu'un de se situer sur une échelle de catégorie sociale, il ne se met jamais dans la catégorie dans laquelle les sociologues, eux, voudraient le faire rentrer. Donc on voit bien qu'il y a une inadéquation des catégories qui pose un problème extrêmement important. D'ailleurs, Pierre Rosanvallon, que vous avez reçu ici, qui est à la chaire au Collège de France sur ces questions de philosophie politique, a lancé une collection qui s'appelle « Raconter la vie », qui repart de la description de la société, mais alors au ras des pâquerettes, en disant justement on n'a pas les catégories sociologiques sur lesquelles nous nous sommes reposés pendant les Trente Glorieuses, etc. On avait le sentiment d'appréhender encore les choses. Ça ne marche plus. Il faut repartir des expériences sociales, les décrire quasiment de façon quasiment documentaire et pour s'y retrouver. Alors, dans certains cas, ça donne des bouquins intéressants. Dans d'autres cas, c'est pas toujours réussi. Mais c'est quand même très significatif que quelqu'un qui est au Collège de France dise « Ben non, il faut repartir de qu'est-ce que c'est qu'un manutentionnaire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un livreur de pizza, quelles sont ses représentations, ses espoirs sociaux, etc. » D'autres récits, d'autres manières de faire de la sociologie, etc. Alors, donc, on voit bien qu'il y a une fragilisation, vous voyez, des catégories qu'on a construites. Les statisticiens disent qu'ils sont assez insatisfaits des outils qu'ils possèdent. Et puis, la manière d'organiser la description de la société par un état central est mis de plus en plus en cause par l'apparition de nouveaux outils de description de la société qui sont justement ces fameuses données massives, big data, qui sont aujourd'hui en train de se développer. Vous savez que un certain nombre d'entreprises cherchent des modèles économiques qui consisteront à exploiter ces données produites sur les réseaux numériques. Que sont ces données ? C'est le fait que quand vous et moi, nous naviguons sur des sites Internet, nous laissons des traces partout où nous allons. Si vous achetez un livre sur Amazon, votre achat est stocké et mémorisé quelque part et mis en rapport avec les achats précédents que vous avez faits, avec votre localisation, avec éventuellement les commentaires que vous avez laissés, etc. Et ça donne lieu à quelque chose qu'on peut considérer comme assez pratique, qui est, par exemple, les autres acheteurs de tel ouvrage ont aussi aimé tel livre. Et donc, c'est vendu comme un service supplémentaire. Mais ce service supplémentaire, il n'a été possible que parce que vous avez été profilé dans votre consommation et que les données que vous avez laissées ont une valeur commerciale pour Amazon. Et là, les choses vont très, très vite. Je vais vous donner un autre exemple sur ce fonctionnement. Il y a quelques années, je m'étais inscrit sur un site de streaming donc pour écouter de la musique en ligne, Qobuz, qui a fait faillite il y a 3 semaines à peu près. Et Qobuz faisait de la recommandation de musique en fonction des genres musicaux. C'est-à-dire que moi, j'écoutais un morceau et Qobuz me disait « Ah, vous avez écouté ce morceau ?» Donc, c'est du jazz des années 50 avec des accords de mineur, avec. En fait, c'est un trio, piano, contrebasse, batterie, etc. Et donc, j'infère de tout ça un certain nombre de catégories qu'un musicologue trouverait tout à fait convenables. Et je vous recommande d'autres morceaux en passant, vous voyez, en montant par ces catégories. Vous aimez. Tel type de musique, et donc je vous recommande tel type de musique. Maintenant, je suis inscrit sur un autre site en ligne qui s'appelle Deezer, qui fait aussi de la recommandation, bien sûr, mais en procédant complètement autrement, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus du tout par ces notions musicologiques. Ils n'en ont pas besoin. Ce qu'ils regardent, c'est qu'est-ce que j'ai écouté comme musique, qui a le même profil que moi, et en fonction des gens qui ont le même profil que moi, de faire ces recommandations. Vous voyez que ça peut sembler à peu près comparable, et en réalité, ce sont deux mondes complètement différents. Parce que dans le monde de Deezer, Il y a juste un profilage et je suis associé avec d'autres profils. On n'a plus besoin des notions abstraites données par la musicologie pour expliquer mes goûts musicaux. C'est même plus un problème de goût musical, c'est un problème de profil. Et en fait, ce profilage, il va fonctionner dans un nombre croissant de nos usages sociaux. Profilage pour la consommation, mais aussi profilage, par exemple, pour mes habitudes de vie, mon hygiène de vie, et donc mes risques médicaux, et donc, par exemple, les assurances, ou pour les voyages, évidemment, pour mes fréquentations. Par exemple, je donne un autre exemple, là où je franchis un cap tout de suite. Dans la lutte contre le terrorisme, j'y reviens, c'était le début de notre introduction, les Américains ont décidé de recourir à des exécutions extrajudiciaires. Donc ils ciblent des personnes suspectes et ils ont décidé de les éliminer un par un et de les éliminer, non pas en venant, comme l'avait fait George Bush, envahir l'Irak, mais par drone. Et la liste des suspects qui est soumise au Conseil de défense américain et en particulier au président américain est établie sur la base de ces profilages. C'est-à-dire, ce n'est pas du renseignement de terrain comme faisaient les services de renseignement jusqu'à présent en disant on sait qu'un tel est en contact avec un tel, etc. Non, c'est de l'analyse de données. On fait du profilage. Un tel a changé 5 fois de téléphone portable dans la dernière semaine. Élément de suspicion numéro 1. Deuxièmement, un tel, effectivement, a passé 3 coups de fil à l'étranger. Élément de suspicion numéro 3. Et si vous remplissez plus de, évidemment, je ne m'en souviens pas, et ce n'est pas des données publiques, j'imagine, mais 20 cases, à ce moment-là, boum, vous êtes un suspect et vous risquez d'être sur la liste des exécutions du programme d'exécution par drone. Et là, c'est strictement du profilage. Et donc, je pense, si je peux me permettre un peu de politique fiction, si vous voulez, c'est que la construction des statistiques publiques à la française vont se trouver très, très rapidement contestée, subvertie, remplacée par ce type de profilage. Il y a eu un débat dans le cadre de la dernière loi de santé proposé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, hein, qui était de savoir justement qu'est-ce qu'on rend accessible ou pas comme données publiques sur la santé. Il se trouve qu'en France, comme on a un ETRA qui est très bien organisé, on a des données extraordinaires sur chacun de nous, des données qui sont agrégées au niveau collectif, qui ne sont plus à un certain moment des données individuelles, mais qui peuvent être extrêmement intéressantes pour l'industrie pharmaceutique, pour les chercheurs aussi, bien sûr, mais c'est extrêmement important. Je redonne un exemple en termes de santé publique, qui est un exemple connu. Vous savez que le ministère de la Santé a mis en place un système d'observation de l'épidémie de grippe. Et là, c'est tout à fait caractéristique de l'État centralisé et statistique, c'est-à-dire c'est le ministère de la Santé qui trouve des médecins sentinelles qui sont chargés d'observer dans leur clientèle un certain seuil, le moment où ils ont des patients qui ont la grippe, et puis on fait remonter l'information jusqu'au ministère, et là, le ministère établit la carte de diffusion de la grippe, le risque, etc. On s'est rendu compte, les États-Unis ont un système tout à fait comparable parce qu'il y a une santé publique qui est organisée correctement aux États-Unis sur ce point pour l'observation des épidémies. Bon. On s'est rendu compte que Google avait 3 jours d'avance sur le ministère de la Santé américain dans la prédiction de l'épidémie de grippe. Pourquoi ? Parce que Google regardait autre chose, regardait les requêtes demandant 3 critères, yeux rouges, nez qui coule, mal de tête. Et quand vous faites la carte des gens qui tapent sur Google, yeux rouges, nez qui coule, mal de tête, vous avez la carte exacte de la diffusion de la grippe et de l'état de l'épidémie de grippe. Donc vous n'avez plus besoin de tout ce système administratif, pyramidal, organisé, centralisées où les médecins font remonter de l'information vers un ministère qui lui-même rediffuse vers la population, etc. Tout ça est parfaitement horizontal, transversal et fonctionne autrement. Et donc, on voit bien que j'ai déjà deux éléments de mon puzzle. Culture de soi, individualisme expressif, construction du savoir, les big data, le profilage, etc. Et le troisième élément du puzzle, c'est la forme de pouvoir qui va avec ça. Quelle est la forme de pouvoir qui va avec ça? Eh bien, je ne sais pas. C'est justement ça, mon interrogation, et mon interrogation citoyenne inquiète, parce que c'est certainement pas un État rationnel centralisé, enfin, ce n'est pas nécessairement l'État rationnel centralisé tel que celui que nous avons construit en France depuis le 19e siècle avec l'héritage de l'idéal des Lumières en arrière-fond. Ça peut être tout à fait autre chose, un État paternaliste, par exemple, qui prendrait une autre forme. Et donc, en fait, c'est ça pour moi l'interrogation importante qui est derrière ces transformations du débat public, transformation dont l'aspect le plus frappant est cette diffusion très très large des rumeurs, de la désinformation, etc. C'est-à-dire, pour dire un mot de conclusion, on voit bien qu'il y a dans les débats publics une forme d'hystérisation. Hein, il y a affolement, pic attentionnel, mise à l'épreuve des normes d'expression dans le débat public, le plaisir de briser les tabous. On voit très bien ça dans les médias, hein, les coups de gueule, les grandes gueules, la manière de se trouver décalé, etc. Donc, hystérisation des débats publics. Il y a aussi une trivialisation du débat public. C'est-à-dire la difficulté d'installer le débat sur les sujets vraiment sérieux. Mais une manière dans le fond, des débats publics dans lesquels la parole de Dieudonné vaut autant que celle d'un universitaire. Et des conflits politiques à venir autour des usages et de la construction du savoir. Hein, ça, je pense que c'est très, très frappant. Ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, ça va forcément dans un sens antidémocratique. On a publié récemment un article un peu synthétique sur le problème des grands projets en France. Vous savez, beaucoup d'ingénieurs de l'équipement disent « Ah, on ne peut plus faire de grands projets en France, tout est contesté, il y a des recours, pourquoi qu'on fasse, etc. » Qu'on fasse Notre-Dame-des-Landes, qu'on fasse le Testet. Et c'est vrai que pour un État français qui s'est affirmé sur les centrales nucléaires, les réseaux électriques, le téléphone, c'est-à-dire tous des projets centralisés, très très lourds, avec justement des compétences d'ingénieurs, etc., c'est très déstabilisant de ne plus pouvoir mener ces grands projets, parce que c'était tout à fait emblématique de la puissance publique. Hein. Il y a des pays pour qui c'est moins traumatisant, mais pour nous, c'est très traumatisant. Bon. Mais on voit bien que dans ces grands projets, si on regarde de près, la question du savoir, de la maîtrise du savoir, est extrêmement importante et n'est pas toujours favorable, d'ailleurs, simplement aux autorités publiques ou, dans le cas, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, j'ai regardé le débat de près, en tout cas, un des arguments pour installer un nouvel aéroport, c'est de dire que c'est un projet rentable. Bon, après, on en pense qu'on en veut. Mais pour savoir si un projet est rentable, il faut établir un calcul de coût par kilomètre pour les gens qui se déplacent grâce à cet aéroport, etc. Et tout le débat est de savoir quel est le prix du coût par kilomètre qui a été retenu pour décider que le projet est rentable. Alors évidemment, c'est un point extrêmement technique dans l'enquête publique, mais si cet élément de la discussion est caché ou est confisqué par des experts, vous n'avez pas de débat public contradictoire sur un sujet comme celui-là. Donc, en un sens, les conflits autour des usages du savoir par le pouvoir sont des conflits qui vont se développer de plus en plus. Et donc, pour dire un mot au final, avant de vous donner la parole, vous voyez pourquoi cette question, pourquoi cette inquiétude pour l'état du débat public, c'est bien sûr aussi une façon de plaidoyer pro domo pour des revues comme Esprit qui font ce travail d'essayer de rendre plus ouvert, plus rationnel, plus transparent, plus intelligent le débat public. Je vous remercie.